Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi Anne. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, bilan contradictoire sur le nombre de victimes pendant la répression de la marche anti-Kabila d'hier.
Au Niger, manifestation hier à Niamey et dans d'autres villes contre la loi de finances 2018 et la présence de forces étrangères dans le pays.
Au Cameroun, l'Ambazonia Defense Forces a revendiqué le rapt d'un autre officiel en zone anglophone.
En Syrie, c'est aujourd'hui que doit débuter dans la Ghouta orientale l'application du cessez-le-feu humanitaire de l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, controverse sur le bilan de la répression de la marche d'hier contre le pouvoir du président Joseph Kabila. La MONUSCO et la Conférence épiscopale nationale du Congo d'une part et la police nationale congolaise de l'autre ne donnent pas les mêmes chiffres. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
2 morts et 47 blessés pour la MONUSCO, même bilan évoqué par la Conférence épiscopale nationale du Congo. 3 morts et 10 blessés pour le comité laïque de coordination initiatrice de la marche. Aucun mort, mais des blessés à Kinshasa, à Kisangani et à Mbandaka selon la police nationale congolaise. Le bilan de la répression de la marche du dimanche 25 février 2018 diverse selon les sources. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Leila Zerougui, annonce par ailleurs plus de 100 arrestations à travers le pays. Le porte-parole de la police, le colonel Pierrot Monampoutou, n'évoque lui que quelques interpellations, notamment à Goma. La marche initiée par le comité laïque de coordination, mouvement proche de l'église catholique contre le pouvoir de Kinshasa s'est heurté aux forces de l'ordre. Au chapitre des réactions, Leila Zerougui appelle les autorités congolaises à mener des enquêtes crédibles sur ces incidents et à prendre des sanctions appropriées contre les coupables. Elle appelle par ailleurs toutes les parties à la retenue. Le rassemblement de l'opposition condamne lui l'usage excessif de la force pour disperser une manifestation pourtant pacifique. Le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, déplore de son côté l'attitude de défi du comité laïque de coordination vis-à-vis de l'autorité urbaine qui avait interdit la marche. Le CLC lui persiste et signe dans son communiqué, je cite, « Il n'y aura pas de répit pour le pouvoir en place tant que nous n'aurons pas retrouvé notre dignité et notre liberté ». Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Niger, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Niamey et dans d'autres villes. Elles demandent l'abrogation de la loi de finances 2018 qu'elles jugent antisociale, ainsi que le départ des forces étrangères basées dans le pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
À bas la loi de finances, forces étrangères, à bas, armée française, américaine et allemande, allez-vous-en, ont scandé les manifestants. Ils ont répondu à l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile. L'opposition politique et 3 centrales syndicales ont appelé leurs militants à prendre part à la manifestation. Nous avons le devoir historique de poursuivre la lutte jusqu'à la satisfaction de nos justes et légitimes revendications, a lancé Nuhu Arzika, un des principaux meneurs de la contestation. Il a qualifié de force d'occupation les bases militaires américaines et françaises présentes au Niger pour lutter contre les djihadistes. Une autre manifestation contre cette même loi de finances est prévue le 11 mars. De son côté, la coalition des partis au pouvoir prévoit une contre-manifestation le 4 mars.
Au Cameroun, l'Ambazonia Defense Forces a revendiqué hier le rapt de Nibom Arongyong, délégué régional des affaires sociales. Il a été enlevé samedi par des hommes armés dans la région du Nord-Ouest. C'est le 2e kidnapping de ce genre en zone anglophone. De Yaoundé, les précisions d'Emmanuel Juntap.
Le délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest revenait d'un deuil lorsqu'il a été attaqué à bord de son véhicule de service par des hommes armés se déplaçant sur des motos. La scène s'est déroulée dans le village Ambo, à plus de 400 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le délégué a été suivi par ses ravisseurs, a déclaré le sous-préfet de Batibo, descendu sur les lieux. Dimanche, à mi-journée, dans une communication de propagande via les réseaux sociaux, l'Ambazonia Defense Force, l'une des branches armées des séparatistes anglophones, a revendiqué l'enlèvement de l'autorité administrative. Son chauffeur a été relâché. Nous avons retrouvé son véhicule calciné au quartier Atanga à Ambou, a confié dimanche soir à VOA Afrique, une source de sécurité de la région du Nord-Ouest. Mais les recherches se poursuivent activement selon les services du gouverneur de la région. Cet enlèvement est le deuxième du genre dans l'arrondissement de Batibo où le sous-préfet de la localité avait subi le même sort le 11 février dernier. Il reste introuvable. L'ambazonia Defense Force avait également revendiqué cet enlèvement et calciné le véhicule du sous-préfet. Depuis le 9 février 2018, la région du Nord-Ouest est sous un couvre-feu. Yaoundé, Emmanuel Jeluta, VOA Afrique.
Au Nigeria, après un mutisme de plusieurs jours, le gouvernement a confirmé hier que 110 filles sont portées disparues après l'attaque de Boko Haram contre une école de Dapchi dans l'état de Yobe il y a une semaine. Le président Muhammadu Buhari a annoncé que des aéronefs supplémentaires sont déployés avec les troupes dépêchées auparavant sur les lieux pour retrouver les jeunes filles. Les autorités avaient auparavant démenti qu'elles aient été enlevées, laissant entendre qu'elles étaient cachées en broche.
Les critiques formulées contre l'Algérie par Amnesty International dans son rapport annuel sur les droits de l'homme sont des contre-vérités et des allégations infondées, a dénoncé hier le ministère algérien des Affaires étrangères. Le rapport 2017 d'Amnesty, publié le 22 février, accuse les autorités algériennes d'avoir arrêté arbitrairement des manifestants, des défenseurs des droits de l'homme, des militants et des journalistes, parlant de procès inéquitables.
Les avoirs de Abdel Monem Aboul Foutou, un dirigeant de l'opposition égyptienne, critique du régime d'Abdel Fattah al-Sissi, ont été placés sous séquestre, a annoncé hier le parquet général égyptien. Monsieur Aboul Foutou a été arrêté le 14 février après avoir lancé un appel avec d'autres figures politiques d'opposition à boycotter la présidentielle de mars, accusant le régime d'empêcher toute compétition loyale. Il a ensuite été placé sur la liste noire égyptienne des terroristes à la demande de la justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les habitants de la Ghouta orientale en Syrie attendent dans l'angoisse aujourd'hui le début d'application du cessez-le-feu de l'ONU et ce, au lendemain d'une nouvelle journée de bombardements et de combats qui ont causé la mort de plus de 500 civils en une semaine. Alors qu'un médecin a fait état de cas de suffocation, de nouvelles accusations d'attaques chimiques ont été lancées par un groupe rebelle qui a pointé du doigt le régime syrien. Mais Moscou, allié indéfectible de Damas, a réfuté ces allégations.
Pour sa part, l'Iran, autre grand allié du régime syrien, a affirmé hier que l'offensive contre ceux qu'il qualifie de terroristes va se poursuivre dans la Ghouta orientale. Samedi, le Conseil de sécurité a pourtant, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, voté une résolution réclamant cesser le feu. Le point avec Jean-Roger Bion.
Comme l'indique la résolution, des zones de la périphérie de Damas qui sont aux mains de groupes terroristes ne sont pas concernées par le cessez-le-feu et les offensives et le nettoyage de l'armée syrienne vont se poursuivre, a déclaré le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major de l'armée iranienne cité par l'agence IRNA. La résolution onusienne prévoit pourtant la mise en place d'un cessez-le-feu de 30 jours pour permettre la distribution d'aide et l'évacuation des blessés. Nous respectons cette résolution qui est une décision internationale et le gouvernement syrien la respecte aussi, a ajouté le général Bagheri. Le régime syrien qualifie de terroristes les djihadistes et les rebelles soutenus par l'Occident. Berlin et Paris ont appelé Moscou à faire pression sur la Syrie pour un cessez-le-feu immédiat. La Turquie a salué cet appel à une trêve. Elle a toutefois souligné que ses propres opérations contre des groupes qu'elle qualifie de terroristes vont se poursuivre. Les frappes du régime syrien dans la Ghouta orientale ont tué 519 civils, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Réaction tiède de l'administration Trump après que la Corée du Nord a exprimé la volonté de tenir des pourparlers avec les États-Unis. Nous verrons si ce message de Pyongyang représente le premier pas sur le chemin menant à la dénucléarisation, l'objectif ultime de tout dialogue avec la Corée du Nord, a déclaré en substance la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders.
En Grande-Bretagne, la police a indiqué hier ne pas disposer d'éléments pour lier à une quelconque activité terroriste l'explosion et l'effondrement d'un immeuble qui ont fait 6 blessés, dont 2 graves, à Leicester, dans le centre de l'Angleterre. La police a demandé à la presse et à l'opinion publique, en attendant la fin de l'enquête, de ne pas se lancer dans des spéculations quant aux circonstances de cet incident. À ce stade, a-t-elle ajouté, il n'y a pas d'indication d'un lien avec une activité terroriste.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
L'enseigne de fast-food américaine KFC entre sur le marché ivoirien. Le premier restaurant équipé d'un drive-in va créer 40 emplois directs selon Vivo Énergie Côte d'Ivoire. KFC tente de rattraper son retard sur Burger King qui a étendu son réseau à 6 restaurants depuis 2015 et affiche un chiffre d'affaires de 7 400 000 dollars en 2017. Le gouvernement gabonais retire du marché 5 marques d'huile raffinée étrangère pour publicité mensongère, indique l'Agence de sécurité alimentaire. Les huiles végétales asiatiques, pour la plupart, mentionnent huile sans cholestérol sur leurs étiquettes. Or, l'enquête sur des échantillons confirme la présence de cholestérol, souligne l'AGASA. Le gouvernement ghanéen veut réduire de 30% les 450 millions de dollars de subventions versées à 800 000 cultivateurs de cacao, une mesure due aux pressions budgétaires auxquelles fait face le Conseil du cacao. En 2016, le parti au pouvoir est arrivé en tête dans les régions de production de cacao après avoir promis d'augmenter les revenus des cultivateurs. Ces derniers ont déjà fait savoir au gouvernement qu'ils n'accepteront pas une telle coupe.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 ont pris fin hier à Pyeongchang. Bilan négatif pour les Africains.
Oui, et 0 médaille en 15 jours de compétition pour les 8 nations du continent qui ont pris part à cette grande messe sportive. Une première depuis 1960, date de la participation africaine aux JO d'hiver. À signaler que la Norvège arrive en tête avec 14 titres et un total de 39 podiums. Précisons que 108 titres dans 7 sports, le tout en 15 disciplines, ont été distribués durant la compétition. À la fin de la cérémonie de clôture, le drapeau olympique a été transmis à Pékin, qui sera la prochaine ville hôte des JO d'hiver en 2022.
Football Casablanca reste la place forte du ballon rond africain. Le Wydad remporte la Supercoupe de la CAF.
Les Marocains ont remporté la première Supercoupe d'Afrique de leur histoire en s'imposant face aux Congolais du tout-puissant Mazembe 1-0. Amine Tigazui a inscrit l'unique but de la rencontre sur coup franc à la 83e minute de jeu. Trois mois après avoir remporté la Ligue des Champions, le Wydad s'empare donc de la Supercoupe, un sacre logique face au vainqueur de la Coupe de la CAF qui s'incline pour la seconde année consécutive dans cette épreuve. Vainqueur de la Ligue africaine des champions, le WAC complète ainsi un palmarès déjà bien garni. Notons que la rencontre a été marquée par la toute première utilisation de l'arbitrage vidéo sur le sol africain.
Le WAC qui défendra son titre en Ligue des champions et connaît désormais tous les qualifiés pour les 16e de finale.
Exactement, puisqu'il ne manquait que l'adversaire de Mabane Swallows. L'équipe de Swaziland affrontera les Zambiens de Zanaco qui ont écarté 3-1 en match retour les Gambiens d'Armée Force. Les matchs allés de ces 16e de finale se disputeront les 5 et 6 mars prochains.
Football toujours, chez les dames, ont disputé aussi une finale, celle de l'UFOA à Abidjan.
Oui, et avec une petite surprise à Idrissa, le pays hôte a été battu par le Ghana, score 1-0 au stade Robert Champrou d'Abidjan. Le but de Janet Aguirre dès la deuxième minute aura suffi pour offrir le sacre aux Black Queens. Un peu plus tôt, le Nigeria a terminé 3e en disposant de 1 du Mali dans la petite finale.
Basketball, les éliminatoires de la Coupe du Monde à Maputo et à Bamako, la troisième journée de la première phase s'est achevée hier.
Et ce sera serré jusqu'au bout dans le groupe B à Maputo. La Centrafrique, battue lors de ses deux premiers matchs, a pris sa revanche en remportant son dernier match 63-62 après prolongation face à la Côte d'Ivoire. Cela permet aux Fauves de rester en course dans ce groupe avant les derniers matchs fin juin, début juillet, d'autant plus que le Mozambique a échoué dans sa course vers le sans-faute devant le Sénégal 60-52. Les Sénégalais restent leaders de ce groupe. Par contre, dans le groupe D, le Nigeria a réalisé le sans-faute, 3 matchs, 3 victoires. La dernière face au Mali, 82-59. L'Ouganda, classé deuxième, l'emporte devant le Rwanda, 79-63. On reste dans cette discipline pour faire le point de la nuit en NBA avec vous, Idrissa.
Charlotte et Détroit, 114-98. La Nouvelle-Orléans a battu de justesse Milwaukee, 123-121. Cleveland et LeBron James, de nouveau surpris, cette fois par San Antonio, 110-94, Washington et Philadelphie, 109-94, et Houston bat Denver, 119-114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, en prévision des élections générales de 2018, le gouvernement procède à une révision des listes électorales du 25 février au 6 mars. Les Maliens de l'extérieur sont concernés par cette opération et peuvent se rendre dans les consulats et ambassades de leur pays. À Bamako, cette révision a commencé, mais sans grande affluence, nous dit notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Aucune liste affichée, aucun délégué de parti politique sur place, encore moins les membres de la commission administrative au niveau du centre d'état civil secondaire de Moyambougou. C'est ce lien qui a été retenu pour la révision exceptionnelle des listes électorales en commune 6. Baba Haman Maïga, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Suite à une collecte de données biométriques des nouveaux majeurs. Donc c'est pour permettre à ces nouveaux majeurs de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale et profiter en même temps, au-delà de l'inscription d'office, de procéder à la radiation de ceux qui ne répondent plus à la qualité d'électeur ou ceux qui sont décédés entre-temps, et de permettre au nom de la mobilité humaine à ceux qui changent de résidence de pouvoir voter au lieu de là où ils désirent voter le jour J des élections. C'est une opération très courte.
Les jeunes se préparent à participer activement à cette opération de révision exceptionnelle. Grâce à son importance, c'est du moins l'avis du président de l'association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections, Bissirou Koulibaly.
Tout d'abord, c'est une activité qui a salué. Il y a beaucoup de Maliens qui ne se sont pas fait enregistrer. Nous étions à Kidal. À Kidal, le président de l'autorité intérimaire, Faraga, nous a dit clairement qu'il faut une révision exceptionnelle pour que les Kidalois puissent vraiment prendre part aux élections à venir. Sur le terrain, techniquement, ce serait un peu compliqué, difficile, mais pas impossible. Parce que c'est une révision exceptionnelle, c'est comme les autres révisions. Le gouvernement déploie les agents sur le terrain et les partis politiques, tous les partis politiques qui sont dans ces localités-là, doivent se faire représenter par un membre de leur parti.
La même révision se passe à Kidal, qui d'ailleurs est la seule capitale régional où les travaux ont débuté hier. Sidi Mohamed Ag Ishrach, gouverneur de la région de Kidal.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'effacer de la liste électorale les personnes qui sont décédées et les personnes qui ont quitté la commune. Ensuite, d'inscrire les nouveaux arrivants, les gens qui déménagent d'une commune vers une autre, donc de les inscrire sur la liste d'arrivée, étant entendu qu'ils ont été effacés de la liste de leur ancien lieu de résidence. Les commissions administratives comprennent les personnels de l'administration et les représentants des partis politiques.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burundi, une convention des Nations Unies élimine toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elles doivent avoir les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie nationale. Qu'en est-il de la situation dans le pays? Christophe Kourounziza, notre correspondant sur place, a posé la question aux habitants de Bujumbura. Reportage.
Madame Mimi Harerimana est une avocate au sein du barreau de Bujumbura. Assise dans son bureau du quartier asiatique de la capitale, elle attend l'arrivée des clients venus lui exposer leurs doléances. Parmi eux, des femmes qui ont été renvoyées de leur boulot respectif du secteur privé ou de la fonction publique sans motif valable. L'avocate reconnaît que même si normalement les femmes burundaises sont traitées équitablement dans la fonction publique et reçoivent des injonctions malencontreuses.
Oui, ces cas existent. Ces cas existent surtout que pour la femme, pendant la grossesse par exemple, elle peut avoir des problèmes de santé. Elle peut passer 6 mois sans bien travailler. À la fin de l'année, elle peut être mal cotée. C'est une injustice parce qu'on n'évalue pas la situation de la femme en tant que mère. Des fois, on peut même suspendre son contrat de travail. La loi vraiment est la même pour l'homme et la femme. Il y a certaines difficultés où la femme est mal vue et mal traitée par rapport à l'homme.
Cette autre femme qui travaille dans une des nombreuses pharmacies éparpillées dans les deux communes de la capitale a eu la chance d'être traitée équitablement comme ses collègues hommes pour le bien de toute la boîte. Témoignage.
Là où je travaille, je vois qu'il n'y a pas de discrimination. Je travaille avec mon collègue. On est traités de la même façon en ce qui concerne le nombre d'heures prestées. Notre patron nous considère comme ses employés. Même le salaire est le même. Nous sommes tous considérés de la même façon.
Il est vrai que les femmes et les hommes restent biologiquement différents. Dans la culture burundaise, l'homme est celui qui s'occupe de toutes les affaires courantes, sauf que les femmes regardent surtout tout ce qui a trait à la cuisine. S'il est vrai que la femme est reléguée au second plan dans les affaires politiques, sécuritaires, elle commence de nos jours à être l'égale de l'homme. Le Burundi reste un des rares pays où une femme est devenue, dans les années 90, premier ministre. Mais pour Dick, qui est marié et père de plusieurs enfants, l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes ne sont pas pour bientôt.
La société dans laquelle nous vivons est une société macho. Pas 10, 15 ans qui vont changer les choses. Je ne crois pas. Il faut encore des années de sensibilisation. Quand je dis sensibilisation, c'est de la part des autorités, de la société aussi, des associations des femmes qui doivent travailler. Les femmes doivent se battre. Elles doivent revendiquer leurs droits. Ça ne s'acquiert pas en un claquement de doigts, donc c'est un long combat.
S'il est vrai que des avancées significatives ont été observées au Burundi en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme, d'autres mesures juridiques et constitutionnelles doivent être demain adoptées pour la protection et la promotion des droits des femmes au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République démocratique du Congo, un enfant sur 5 souffre de la malnutrition dans les provinces de l'Est. La zone de santé de Minova, l'une des régions les plus affectées, est située à 50 km au sud-ouest de Goma, la capitale du Nord Kivu. L'UPAM, la FAO et l'UNICEF viennent d'y lancer un vaste programme pour faire face à la situation. Reportage de notre correspondant Charlie Kasereka.
La zone de santé de Minova présente plus de 450 000 habitants. Ici, les maladies fréquentes restent le paludisme et la malnutrition. L'année dernière, 132 cas ont été enregistrés en pédiatrie, dont 11 décès, et les centres continuent à recevoir d'autres malades. Rebecca Kawete est une mère de famille d'une quarantaine d'années, le regard perdu, tenant dans ses mains ce jument sur le lit de l'hôpital, souffrant tous de la malnutrition chronique.
Ça fait 4 mois qu'ils présentent des signes de malnutrition et je pense que c'est parce que je n'avais pas de nourriture à leur donner. Ils sont jumeaux et tous deux malades. Pour manger ici, c'est les voisins qui doivent me donner. Je suis déplacée de guerre, je ne sais pas comment je vais payer l'hospitalisation.
Avec une dizaine de lits dans les pavillons pédiatriques, la majorité des patients souffrent de la malnutrition et risquent d'être contaminés par d'autres maladies. Jean-Paul Balega est médecin traitant et chef de service de pédiatrie ici à l'hôpital de référence de Minova. Il nous présente ses inquiétudes.
En moyenne, nous recevons entre 8 et 10 cas par mois. Effectivement, l'espace ne répond pas comme vous venez de le voir vous-même. Vous voyez que la capacité d'accueil elle est faible. Là où nous avons les enfants malnutris, c'est là où nous avons les autres enfants faisant d'autres pathologies.
La région possède presque tout en termes d'alimentation, mais les taux de prévalence restent de 53% au sud Kivu et 52% dans la province voisine du nord Kivu, où un enfant sur 5 souffre de la malnutrition chronique.
La malnutrition, si elle persiste, je peux citer au moins 3 grandes causes. Le sevrage précoce chez les mamans. Vous allez voir la plupart des mamans qui viennent, elle a une grossesse et à côté c'est l'enfant qui fait la malnutrition. La deuxième des causes, les habitudes alimentaires. Les gens cultivent, mais ils ne mangent pas ce qu'ils cultivent. Ils préfèrent les vendre au marché. Troisième cause, c'est le déplacement massif de la population.
La FAO, l'UNICEF et les PAM, ces 3 ONG internationales, viennent de bénéficier en RDC de plus de 3 millions de dollars de la part de la coopération suisse avec sur pied des projets qui vont contribuer à réduire la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 23 mois, mais aussi les femmes enceintes et celles qui allaitent leur bébé. Pour Raoul Baletto, chargé des programmes OPAM-RDC, une forte sensibilisation sur la pratique alimentaire est nécessaire dans cette région riche en produits agricoles.
C'est un problème assez répandu en RDC. Donc tout d'abord, dans le court terme, évidemment, la sensibilisation tout d'abord, mais aussi à la relance agricole et aux pratiques alimentaires.
La malnutrition reste un problème majeur de santé publique et de sous-développement en RDC depuis plusieurs années maintenant. Charlie Kassereka, des retours de la cité de Minova. Va pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Congo-Brazzaville, la dot constitue un gros obstacle pour nombre de jeunes qui voudraient se marier. Elle dépasse le million de francs CFA, sans compter les cadeaux les plus invraisemblables, nous dit de Brazzaville notre correspondant Ngwelangusu.
La société congolaise connaît un vrai malaise concernant le mariage coutumier qui est particulièrement marqué par la dot.
Moi, pour des parents qui demandent des groupes électrogènes et autres, c'est un peu de la cupidité. C'est comme qui dirait un peu quémander auprès de son gendre. En fait, c'est ça. Tu es vendu.
Je crois que la société congolaise doit avancer. Moi, je pense qu'il faut abolir la dot. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, en 2018, les femmes revendiquent l'égalité. La femme n'est pas une marchandise. La dot est un frein à l'évolution de la civilisation congolaise. La dot est aujourd'hui un frein. Il faut avancer avec son temps.
Pour Amandine Boussamboté, une jeune célibataire, les familles ne doivent pas trouver dans le mariage de leur fille une occasion de s'enrichir.
Et je pense que nos parents exagèrent quelquefois parce que pour eux, ils pensent que c'est l'occasion de récupérer tout ce qu'ils ont engagé comme dépenses, que ce soit du point de vue scolaire, sanitaire et autres. C'est vraiment très élevé.
Les juristes et les législateurs ne savent plus quoi dire dans ce débat. Le code de la famille adopté depuis 1984 est visiblement dépassé avec ces nouvelles pratiques. Le juriste Odilon Ondian suggère que le montant de 50 000 francs CFA prévu dans ce code soit revu à la hausse.
50 000 qu'on exigeait en 1984 sont devenus aujourd'hui une somme dérisoire vu le coût de la vie, vu l'élasticité de la famille africaine, vu les mentalités des Congolais aujourd'hui, beaucoup plus ancrées à l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le législateur s'adapte par rapport à l'évolution de la société. Vous savez, il y avait un grand juriste, Georges Ripert, qui disait que quand la loi ignore la réalité se venge en ignorant la loi. C'est très fort. Que ce montant soit laissé à la liberté des familles, à condition qu'il ne dépasse pas la somme de 300 000. Parce qu'aujourd'hui, ce montant aussi entre 500 000, 1 million, voire même plus.
Ngwelangusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la césarienne.
Il s'agit d'une technique d'accouchement qui permet d'extraire le bébé en faisant recours à la chirurgie lorsque le travail naturel de la maman est difficile.
Pour en parler, nous recevons le docteur Michel Toussalissana, directeur de l'hôpital général de référence de Béni en RDC. Il nous expliquera quand la césarienne est nécessaire et ce qu'il faut faire avant et après l'opération.
Nous écouterons également les témoignages d'Anouchka, une femme ayant accouché 3 fois par césarienne. Nous donnerons aussi la parole à Angèle Malemba, sage-femme au centre hospitalier La Borne à Kinshasa.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans votre émission RM Show à 20h, temps universel, au programme de la bonne musique comme d'habitude. Sujet de cette semaine, est-ce nécessaire de frapper l'enfant pour l'éduquer? Est-ce nécessaire de frapper l'enfant pour l'éduquer? Vous avez proposé ce sujet, on en parlera cette semaine. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001-703-350-3731. Contactez-nous aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Herb Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, appelez-nous en live, en direct au 001-202-619-3140. Peace Africa.
Cook. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Hey. Bruno Sands, tell me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the ground like, hey. Hit that little John, okay. Okay. Oh, yeah, we dripping the finesse and getting paid.
Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.